Donc bienvenue là, donc, dans l'atelier numéro 1, donc, intitulé donc, le challenge de l'intelligence artificielle pour les professionnels de l'orientation. Donc, on va être donc bien dans la continuité de l'introduction de la table ronde de ce matin. Donc, je suis Yvan Coilier, donc, psychologue de l'éducation nationale. Je travaille pour le réseau Euroguidance et je suis basé donc, au Centre d'information internationale à Lyon. Donc, cet après-midi, ça va vraiment faire la continuité de ce qui s'est dit ce matin en vous montrant pour le coup, vraiment des applications pratiques avec les trois intervenants qui sont autour de moi. On aura tout d'abord Pascal Guy de l'Université d'Orléans qui présentera le projet Cairns. Je laisserai largement la parole par la suite. Et il sera accompagné d'une équipe de bêta-testeurs, donc des personnes. Bêta-testeuses, du coup. Excusez-moi. Qui du coup ont testé un petit peu le prototype de ce qui est en train de se mettre en place. On aura ensuite Michel Muller, qui je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui travaille à l'UNICEF et qui montrera un projet avec la start-up Human Roads. Donc on aura l'occasion voilà, de présenter cela. Et on finira avec Antoine Bagrandet de la start-up Studies, qui présentera également son application d'intelligence artificielle à destination des étudiants pour les aider dans leur orientation. Donc, suite à ces différentes présentations, donc on aura du coup un aperçu un petit peu concret d'application d'intelligence artificielle dans le domaine de l'orientation. On pourra ensuite rebondir, avoir des échanges bien sûr avec vous, et on reprendra des thématiques qui ont déjà été abordées ce matin, comme par exemple quelle appropriation donc, pour les usagers et pour les conseillers d'orientation, ou plus largement également les enseignants. Et puis voir ensuite également, pourquoi pas, quelle conception ou quelle co-conception de ces outils pourra être faite entre le public et du coup ceux qui sont un petit peu aux manettes de l'intelligence artificielle. On va démarrer directement. Pascal Guy, on va juste switcher.
Tout à l'heure c'était en rose.
Non, c'est bon,
super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Guy. Je suis ingénieur d'études à l'Université d'Orléans et le concepteur de l'outil Cairns que nous allons vous présenter avec l'équipe de bêta-test qui n'a pas fait que tester et qui a participé activement durant un an au développement de l'outil, mais aussi pour partie à sa valorisation scientifique. Je vais très très vite, je vais rappeler le cadre dans lequel ces travaux s'inscrivent. Ça s'inscrit dans le cadre donc, du REMIS, réseau des écoles de management et d'ingénierie de la santé. Ce réseau est sorti lauréat d'un IDEFI, alors pareil IDEFI pour Initiative d'excellence en formation innovante, soutenu par les IA, alors pas pour intelligence artificielle mais pour investissement d'avenir, et géré par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est un réseau qui rassemble 7 universités, des industriels, réunis autour des formations innovantes dans le secteur de la santé et le domaine, en particulier le domaine non-soignant, précisément le domaine non-soignant. Donc les métiers émergents, les compétences émergentes, mais aussi les métiers déclinants. Alors, la présentation se fera en trois temps. Un premier temps qui rappellera le contexte, les enjeux, mais aussi les principes de conception de l'outil Cairns. Ensuite, une démonstration courte de l'outil qui est en cours de développement. Il n'est pas encore. Ce n'est pas un résultat abouti, on va dire. Hein. Et enfin, dans un troisième temps, eh bien, l'intervention de mes collaboratrices qui vous présenteront leur contribution. Alors parmi les enjeux, tout d'abord, il s'agissait effectivement de cartographier les métiers et les compétences émergentes dans le domaine de la santé, qui sont des métiers porteurs mais méconnus, qui ne sont pas toujours référencés. Et puis, pour aller très vite, très rapidement, il s'est agi de développer un outil d'orientation tout au long de la vie, donc tout public, tout secteur professionnel, toute formation. Trois principes fondateurs, vous les avez ici, la territorialisation, l'intégration et l'interactivité. Je vais passer rapidement, mais ce sont quand même les principes fondateurs, celui de la territorialisation, le choix de la territorialisation, tout d'abord, c'est une réflexion notionnelle, conceptuelle sur la question de la distance, qui est un vocable qui est très, très largement employé par les professionnels de l'orientation, mais aussi de l'accompagnement, de l'emploi, la distance à l'emploi, la distance à la formation. Et aujourd'hui, la distance, finalement, c'est ce qui circonscrit un territoire. C'est ce qui fait qu'on peut visualiser un territoire. Et la distance dans le domaine de l'orientation, eh bien, c'est une distance qui est vivante, qui est mouvante, et du coup les territoires le sont aussi. Alors le territoire de la santé, personne ne sait véritablement à quoi ça ressemble. Il faudrait pour cela que l'on puisse répertorier la pluralité de ces distances, à la fois des distances, alors que l'on connaît dans les fiches de formation, c'est la distance scientifique, avez-vous les prérequis pour entrer en formation, hein, la distance à la distance géographique, mais aussi vous avez la distance qui est, alors là, plus difficile à trouver, hein, mais qui existe, la distance sociale, la distance économique, la distance administrative, financière, cognitive, etc. Comment rendre compte de ces distances qui touchent en fait à l'activité réelle de l'orientation? Alors ce terme « activité réelle » rejoint ce qu'on appelle l'ergonomie de l'activité de l'orientation. C'est-à-dire, je vais faire très court, mais à la fois prendre en compte l'activité réelle et l'activité prescrite, mais pas seulement, aussi de prendre en compte ces deux éléments pour réfléchir sur l'écart, en fait, entre les écarts existants entre l'activité réelle et l'activité prescrite. Son corollaire technologique, le choix qui a été fait après de nombreuses explorations vers des systèmes d'exploitation, des systèmes intelligents de gestion de données, c'est finalement vers les géographes, à l'origine des universitaires, des géographes, que la solution, en tout cas, nous pensons avoir trouvé une solution pertinente, qui ont développé il y a pas mal d'années une solution informatique qu'on appelle les SIG, c'est les sciences de la géomatique. Alors vous avez les ingénieurs en géomatique, les cartographes qui travaillent avec les SIG, et puis finalement, cet outil logiciel a été détourné depuis pas mal d'années pour le géomarketing, mais pour les transports, la logistique, la recherche, la santé. Et aujourd'hui, les systèmes d'information géographique sont des systèmes intelligents qui mettent en carte, en fait, hein, qui rendent visibles 260 fichiers Excel, par exemple, sur une carte. Hein. Et cette carte ne décide pas, je vais très vite, hein, mais elle ne décide pas, mais elle aide à les décisions. On en a parlé ce matin, effectivement, ce qu'on appelle les outils géodécisionnels. Alors, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir constituer un territoire à partir de ce que j'appelle des autoroutes, c'est des éléments délivrés par des institutionnels, avec une robustesse d'information, mais aussi l'activité réelle, on le verra tout à l'heure. Rendre compte de ces distances par un plan géographique, un plan des services, les services du CROUS, de l'hébergement, de la santé, des passerelles handicap, etc. De plans scientifiques, les prérequis, on en a parlé, les plans de formation, les plans de mobilité, la mobilité internationale. Voilà. Et l'ensemble de ces couches, le plan des publics aussi, hein, si on est demandeur d'emploi, si on est allocataire du RSA, et ces couches constituent un territoire thématique et individualisé en fonction de ce que je vais remplir dans le questionnaire au départ, avec donc la proposition d'explorer un territoire qui me parle et qui est signifiant. Le web mapping, donc l'opération de mettre en carte. Deuxième principe fondateur, celui d'intégration. Alors ça, c'est fondamental dans ce principe. Ce projet, intégrateur à deux niveaux, intégrateur de données, les données, j'en ai parlé, des autoroutes, à la fois des milieux socio-économiques, des services publics avec le SPRO, les compétences régionales en termes d'orientation, tout ça vous savez. Et puis, l'ONICEP qui est ici présenté, mais l'intégration de tous les outils, de toutes les méthodes, toutes les démarches, toutes les actions qui sont menées autour de l'orientation avec un objectif, aider à s'orienter, à savoir s'orienter, aider l'usager, service public, aider l'usager à savoir s'orienter, avec tous les acteurs et tous les outils qui existent. Donc, intégrateur signifie que le positionnement de CARD est un positionnement non concurrentiel, non agressif, on n'est pas sur... promouvoir, rendre visible toutes les actions, tous les outils qui existent au service des usagers. Et enfin, sur un deuxième élément, alors évidemment, les utilisateurs et les utilisatrices, c'est l'activité réelle, je n'ai pas le temps, je ne sais pas si je suis un peu dans le... L'activité réelle d'orientation, c'est pouvoir récolter les données de façon anonyme, récolter les données des utilisateurs qui s'orientent sur la plateforme, hein, sur le territoire co-conçu. Deuxième point d'intégration, c'est dans la conception même. Et là, c'est une approche ergonomique aussi de la conception de l'action. C'est-à-dire que il était absolument fondamental que cet outil ne soit pas un outil descendant, qui explique comment, maintenant, aux professionnels de l'orientation, par exemple, comment il va falloir travailler. Voilà, ça, c'était absolument fondamental de travailler en amont avec les professionnels de l'orientation à la conception de cet outil. Donc, effectivement, les psychologues de l'éducation nationale, les DRONICEP, chargés de mission de l'ONICEP, au niveau régional, les services de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'université, Pôle emploi, voilà, ont œuvré, ont apporté leur contribution à la conception. Et enfin, un modèle, troisième principe, interactif, collaboratif, participatif, et qui est très lié, vous l'avez compris, à la récolte de données qui rendent compte de l'activité réelle de l'orientation. Alors là, vous avez des petites capsules vidéo, puisque, effectivement, le territoire sera jalonné eh bien, de témoignages d'étudiants, de stagiaires de la formation continue, de demandeurs d'emploi, de responsables d'établissement, donc un public large qui traite de la formation, du métier, mais aussi d'une compétence, parce que la granularité aujourd'hui, elle n'est plus au métier, elle est à l'activité professionnelle, et peut-être même plus seulement, ce terme qui revient maintenant avec France Compétences, à la compétence. Et à la compétence mobilisée contextuellement, spatialement, temporellement, dans une entreprise précise, à tel moment, pour tel projet. Et ça, le territoire va pouvoir l'inscrire. Voilà, le prototype est en cours, il devrait sortir la semaine prochaine. Dispositif pédagogique hypermédiatique, mes collègues en parleront bien mieux que moi. Dispositif pédagogique, c'est absolument fondamental. C'est un outil pédagogique qui vise à... Alors, on a parlé ce matin de orienter, de s'orienter. Ce n'est pas l'enjeu ici. Ici, l'enjeu, c'est savoir s'orienter. Parce que quand on a 20 ans, quand on a 30, quand on en a 50, quand on arrive à la retraite, la compétence à s'orienter n'est pas la même. Donc, l'idée est d'être sur un niveau métacognitif, savoir s'orienter tout au long de la vie. Alors, là, je vais sortir. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps pour faire une rapide présentation. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un cairn, mais au départ, je me suis inspiré effectivement de l'activité de randonnée. Et, comme bien souvent, hein, l'innovation technologique part du quotidien. Et les randonneurs, évidemment, positionnent des repères. Ces repères sont, je précise, hein, ils sont mouvants. Alors vous avez des cairns qui sont extrêmement robustes, qui sont énormes, qui laissent à penser que l'information doit être fiable quand même. Vous avez des tout petits cairns qu'on ne voit même pas d'ailleurs, tellement ils sont petits. Et là, on peut rester perplexe. Hein. Donc il y a l'idée de partage, d'entraide, de co-conception de parcours. Alors là, vous en avez un, il est particulièrement joli, on trouve en tout cas, qui fait penser effectivement, comme Juliette le disait, à une personne en équilibre. Donc je me connecte, je suis là sur l'hébergeur de la société d'informatique, donc en espérant, voilà, je me connecte, et parmi les corollaires technologiques aux principes fondateurs, vous aviez donc le SIG, qui va être le moteur en fait, qui va propulser, qui est un système intelligent. Et puis, vous avez le réseau social. Le réseau social qui va accueillir à la fois des données institutionnelles et puis aussi les données réelles d'activité, mais d'activité de s'orienter. On le verra à quel niveau de grain. Alors, vous avez un environnement, bon, je pense qu'il parle à peu près à tout le monde, un mélange entre LinkedIn, Facebook, Twitter, avec ici un bouton... accueil, comme c'est noté, un moteur de recherche, un agenda auto-alimenté par ses explorations. On le verra. Dès l'instant où j'explore et que je prends rendez-vous quelque part sur ma carte, mon agenda est immédiatement alimenté. Si vous voulez, le SIG permet parce que toutes ces fonctionnalités dialoguent. Donc, messagerie, notification, un espace pour les professionnels. Alors, je parlais de Pôle emploi, mais... vous pouvez avoir une entreprise, vous pouvez avoir qui, ici, avec un forum dédié, peut eh bien, proposer des événements, des manifestations, et apparaître, du coup, sur mon fil d'actualité, qui est ici. Hein, vous voyez, donc là, Bon, un petit clin d'œil pour l'événement. Hein. Et vous avez, voyez aussi ici par exemple les outils régionaux qui montrent bien l'intégration. On va voir tous les outils développés par les conseils régionaux de France. Et hors hexagone d'ailleurs. Je reprends ce qui est fixe, la page professionnelle. Vous avez ici la gestion de votre compte. Alors toujours, on en a parlé ce matin, sur la sécurité des données, la RGPD évidemment. Hein, donc qu'est-ce que je partage, ce que je ne partage pas. Messages, contacts, mes groupes, forums. Voilà, je passe très très vite. Et ce qui est fixe également, c'est mon fil d'actualité, ou on appelle le mur sur Facebook, ou timeline. Par ailleurs, mon agenda que je peux rappeler ici, et l'accès au forum. Alors, vous avez un bloc ici qui est le bloc qui va servir le SIG avec mes CV. Alors, mes CV. Hein. Mes CV en fonction de mes explorations en termes de formation, en termes d'emploi. Alors là, c'est ce que j'ai noté, j'ai rien mis, mais mobilité, et j'ajoute à chaque fois des projets. Donc je peux créer, pardon, je suis sur un CV, un CV que je vais pouvoir catégoriser ici et que je vais pouvoir d'ailleurs associer à d'autres répertoires éventuellement. Ces CV, avec bon, le possible d'importer le CV de DoYouBuzz, créer un nouveau CV de façon à ce que vous puissiez voir la version voilà, d'édition et... la version électronique qui peut être partagée, envoyer son CV à un membre du réseau Cairn, mais aussi générer un lien de façon à transmettre mon CV à l'extérieur. Avec présentation, ici, expérience, formation, compétences, loisirs, et le portfolio dont on a parlé ce matin. Voilà. Donc ce qui apparaît, bon, vous avez rapidement un aperçu qui est vide, évidemment, parce que je n'ai rien rempli, mais voilà ce qui est transmis, ne laissant pas la place, évidemment, enfin, ne laissant pas la possibilité d'aller ailleurs que sur les CV et d'appliquer sur ces boutons-là. Mes documents, je vais aller rapidement. Mes documents, toute la partie archivage en fonction de mes explorations, mon réseau, mes droits. Alors là, c'est important. Enfin, cette partie, la partie à la fois informative sur les droits sociaux, les droits à la formation, qui renvoient vers le site, les plateformes ministérielles, notamment le compte personnel d'activité, qui donne accès à son compte personnel de formation, etc. Et puis la boîte à outils avec consulter, déposer, participer au développement de la boîte à outils d'aide à l'orientation. Retrouvez ici vos outils d'orientation, donc la possibilité qui est offerte de participer à l'enrichissement de tous les outils d'orientation pertinents en fonction de certaines thématiques. Par exemple, les outils régionaux, vous avez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tous les outils qui ont été développés par les régions dans le cadre du SPRO. Et puis, en mobilité internationale, vous retrouverez évidemment Erasmus+, Euroguidance, Europass. Un petit clin d'œil pour Human Roads, qui a vocation aussi à être promu au sein de cette plateforme, comme étant un outil d'aide à l'orientation. Mes fiches métiers, c'est une bonne transition pour parler là aussi de l'ONICEP, avec une base de documentation issue de la base de l'ONICEP, mais aussi issue de la base de Pôle emploi. Donc vous avez deux référencements, qui est le lien ONICEP avec les codes de référencement ONICEP, mais vous avez aussi les codes ROB qui sont cliquables, hein, qui vous permettent d'accéder à la fiche ROM. Alors vous avez ici donc toutes les fiches, et en fonction des métiers, alors vous aurez également la même chose pour les formations, hein, toutes les formations proposées, en fonction des métiers que je vais, par exemple, l'accessoiriste, ici, mettre en favori, ça glisse immédiatement dans mes fiches métiers, et le SIG qui tourne prend en considération cet élément que je viens d'intégrer pour me proposer un territoire avec tous les accessoiristes en formation, ou qui explorent également ce projet de formation, ou qui sont accessoiristes, ou qui ont été accessoiristes, de façon à pouvoir, de façon anonyme, là aussi, hein, pouvoir dialoguer sur comment ils s'y sont pris, quelle aurait été leur aventure. Et j'arrive finalement à la partie centrale donc, du système d'information géographique. Alors, un avatar ici qui rappelle en fait là le fonctionnement, ça vient symboliser le fonctionnement du SIG. En fonction de ce que de mes explorations du moment, le SIG me dit vous feriez bien de remplir votre profil, vous feriez bien éventuellement de contacter telle structure, vous feriez bien éventuellement d'afficher les établissements scolaires, parce qu'il aura détecté en fonction d'autres explorations, hein, ou en fonction d'autres données, eh bien que là, il y a une pertinence. C'est du croisement de données. Alors, on n'est pas sur l'intelligence artificielle, on est sur l'intelligence que je qualifierais de distribuée. On est sur de la cognition distribuée. C'est-à-dire que ces territoires sont constitués avec des éléments d'intelligence différentes qui font sens par rapport à mon exploration. Donc on n'est pas sur un aspect algorithmique, prédictif, adéquationniste. Hein. On est sur, effectivement, de la compétence à s'orienter à partir des informations déposées, qu'il s'agisse d'activités réelles ou d'activités prescrites. Alors, la possibilité de poursuivre, donc vous voyez ici, alors là, c'est franco-français, on est dans les locaux d'Erasmus+, mais on peut effectivement tout à fait faire un stage à Barcelone. J'ai essayé hier, ça marche. On aura un trait à ce moment-là qui tombe vers Barcelone. Vous avez, pour explorer tous les parcours qui sont similaires, et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une vue d'autres parcours qui ont du sens. Et je vais pouvoir avoir un détail de ce parcours. Alors, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui s'intéresse, comme moi, au master ergonomie de la motricité, et avoir un détail des processus, des démarches à l'œuvre. Hein. On en aura une vision par graphe tout à l'heure, je passe. Mes projets, alors projet métier, j'ai celui de devenir ergonome, mais je vais ajouter un autre projet, voilà, qui est de devenir web ergonome. Hein. Et on peut, autant que souhaiter, explorer. On a parlé de droit à l'errance, de droit à l'erreur en pédagogie, de droit à l'errance. On peut errer sur des territoires et puis voir c'est quoi le territoire d'un web ergonome, comment on accède éventuellement à la formation au métier. À l'échelle d'une compétence, assurer le contrôle qualité, et puis on va arriver par exemple à l'IUT d'Orléans qui propose un module sur le contrôle qualité. Formation, alors là, évidemment, le master ergonomie de la motricité, puis on va en avoir d'autres. Je passe rapidement. Et le partage, la notion d'entraide et de partage. Ici, je partage mon parcours, je partage mes processus de décision, mes processus d'exploration, soit à tous, soit à... Alors, là, quel projet je partage? Bon, évidemment, il y a des partages qui ne sont pas encore intitulés, des projets qui n'ont pas d'intitulé. Vous pouvez écrire donc le nom d'un contact issu de vos contacts, ou alors générer encore une fois un lien, et transmettre votre parcours à quelqu'un qui n'est pas inscrit sur cette plateforme. Alors ensuite, si je prends le cas du master ergonomie de la motricité, que je suis demandeur d'emploi et en situation de handicap, eh bien, je vais avec, et c'est là où c'est un outil qui, à mon sens, tire le maximum de potentiel, c'est un outil qui doit être accompagné avec les professionnels de l'orientation et d'accompagnement qui, là, vont travailler à développer des compétences à s'orienter. Et là, en l'occurrence, voici une partie des démarches en cours pour le type de candidat que je vous ai présenté, avec une représentation ici, un graphe qui permet de rendre compte des processus à l'œuvre dans l'activité d'orientation. Alors en proportion, ici on le voit aux frais, par exemple aux frais de formation. Pôle emploi avec le financement du master, qui reste à trouver, le niveau de la rémunération. Et pour chacun de ces cairns, j'ai une fiche explicative qui est datée et qui est localisée. L'accompagnement handicap, eh bien on va avoir Cap emploi, Prométhée, dossier de candidature. Validation des acquis, on va avoir la rencontre avec le responsable du diplôme qui est daté avec eux. Et donc, vous voyez ici, j'ai déjà une représentation graphique d'un début d'orientation. Alors, Je vous invite à regarder sur Internet une conférence sur la résolution de problèmes complexes. L'orientation, en tout cas je le traite de cette façon, l'orientation vue comme la résolution d'un problème, vue comme un problème complexe à résoudre. Et il y a une conférence sur un test qui est fait sur la résolution de problèmes complexes, comment griller son pain par exemple. Et on va de 2 étapes à 18 étapes. Alors, selon qu'on est ingénieur, selon que... Alors, on voit des étapes complètement folles pour griller son pain. Et ici, il s'agit de ça, en fait. Hein. Il s'agit de quels sont les processus cognitifs à l'œuvre lorsque je décide de m'orienter et qui mettent en avant pas seulement des démarches, mais des compétences à s'orienter. Ou un certain nombre d'incompétences. Ou chaque fois les mêmes erreurs. Et c'est là tout le travail des professionnels, des psychologues de l'éducation nationale, de tous les accompagnants, qui est d'aider à s'orienter tout au long de la vie pour développer des compétences que je vais développer tout au long de ma vie. Voilà. Okay. Avec une représentation de mes étapes. Et alors là, c'est en bêta-test. Évidemment, on n'a pas les autres parcours qui apparaissent. Hein. Voilà. J'ai trop parlé. Je vais revenir à la diapositive pour laisser la parole à mes collègues.
Merci pour cette présentation. Qui va être complétée par l'équipe des bêta-testeuses.
On a combien de temps ?
3 minutes chacune.
Donc, moi, je suis, si on a un temps, je suis ici en tant que prodipure et. Je ne sais pas du tout, mais du processus Erasmus. Donc voilà, ça marche très bien, je confirme. Je suis ici comme ingénieure pédagogique donc, à l'Université de Bretagne-Occidentale et coordinatrice du projet Defiremis. Si vous permettez, je me lève parce que je n'ai pas mon cours d'ailleurs. Voilà, je vais terminer comme ça. Ma participation au projet, à l'équipe de bêta-testeurs, a été liée à mon expérience de recherche en Infocom, sciences de l'information et de la communication. Donc, ce que j'ai pu apporter, c'était une vision informationnelle de l'orientation. C'est-à-dire, mon domaine de recherche, c'est la médiation. Et dans ce cas-là, une médiation accommodée par le numérique, parce que Pascal a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, c'est un outil dédié à la médiation accompagnée. Voilà, donc l'outil prévoit un accompagnement humain, c'est pas uniquement humain. Ce que j'ai pu apporter, il y avait quelques points que j'ai regardé de près dans le développement et autour desquels on a discuté, on a même publié, c'était le fait de penser outil, d'accord. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, quelle est l'intention derrière l'outil qu'on construit, mais surtout de penser usage, finalement. Pourquoi on construit cet outil-là ? À qui il est destiné ? Quelles sont les pratiques informationnelles derrière, en fait ? Qui sont nos usagers ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont s'orienter concrètement ? Ce qui m'a intéressé, c'était le fait de rendre visibles les parcours. C'est exactement ce que Pascal a montré à la fin, et je pense que c'est assez réussi, hein, d'ailleurs. Et le fait de placer l'usager au centre du système. Là, c'est une formule presque déjà bien faite dans les sciences de l'éducation. Tout le monde cherche à mettre l'usager au centre, mais concrètement, ça se traduit comment ? Donc voilà, c'était des points que je cherchais à mettre en place dans le développement, dans l'implémentation plutôt. Et sinon, moi je m'intéresse beaucoup au sens. La médiation du sens. On sait qu'on est tous dépourvus devant quelque chose qu'on ne comprend pas, devant quelque chose qu'on ne sait pas comment approcher. Et l'orientation, de ce que j'ai pu entendre, c'est quelque chose de difficile à approcher. Donc l'outil que Pascal a conçu, je pense que ça aide beaucoup à ça, à poser des clés de lecture, à poser des balises, des repères qui permettent à l'usager, peu importe, hein, que ce soit un étudiant ou un accompagnant de l'orientation, qui lui permet de lire, d'interpréter, de réinterpréter pour comprendre son milieu, ses objectifs, ses ambitions, le chemin qu'il voudrait prendre, mais aussi se comprendre soi-même, Et tout ça, pourquoi ? Bah, pour donner du sens à son orientation, un sens qui lui permet d'ouvrir ses perspectives, d'ouvrir également son horizon d'attente en termes d'orientation. Et finalement, l'objectif, c'est de passer à l'action. Mais l'action, comme il disait notre collègue tout à l'heure, une action engagée, en fait, où il met du sien, de soi-même, et une action, pas seule dans son coin, mais avec les autres, que ce soit les conseils d'orientation ou ses pairs, voilà, dans la collaboration et dans le partage. J'ai parlé un peu vite, mais j'ai envie de continuer. Avec Pascal, nous avons participé au transformateur numérique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dispositif porté par l'ANAP et la FING, ANAP, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. C'était la 5e édition qui portait sur l'égalité professionnelle, et donc, en partant de Ken, nous avons envisagé d'autres usages. Le côté pédagogique, je pense que c'est assez convaincant, c'est clair pour tout le monde, mais des usages, donc ça portait sur l'égalité professionnelle, j'ai dit, rapidement, ça pourrait être un outil pour accompagner les collectivités territoriales. Je pense que vous savez qu'ils sont soumis à une obligation de rapport en termes d'égalité avant les débats sur le budget. Voilà. Ça peut être aussi un outil d'accompagnement des branches professionnelles. Eux aussi, ils ont besoin de construire des grilles un peu neutres du point de vue du sexe. Pour l'ANAPT, on avait proposé ça, c'est en cours d'études, un outil pour inventorier, répertorier toutes les initiatives innovantes sur le territoire national en ce qui concerne la qualité de vie au travail et l'égalité entre la vie.
Et on a été lauréat.
Comment ?
On a été lauréat.
Oui, pardon, j'ai oublié. On a été lauréat parmi, je ne sais pas, 24 projets. Voilà,
très bien, merci.
Ah, merci.
Donc ensuite, c'est...
Pardon, Juliette.
Juliette, en 2 minutes du coup maintenant.
Ouais. Donc bonjour à toutes et à tous. Juliette Lebon, je suis ingénieure d'études dans le cadre d'un programme de recherche régional dans le secteur pharmaceutique. Je suis également doctorante en sciences de gestion en ressources humaines et du coup je suis intervenue dans le projet CARE pour apporter une vision RH de l'outil et notamment avec une dimension territoriale. C'est vrai que c'est des sujets qui sont très d'actualité en ressources humaines et du coup c'est ce qui faisait bien aussi avec l'outil CARE. Donc nous voilà, ma contribution, c'était apporter cette vision-là. Et pour moi, ce que représente en fait l'outil CARE, c'est vraiment, au niveau territorial, c'est un outil qui est finalement fédérateur parce qu'il réunit une pluralité d'acteurs sur le territoire et des acteurs de structures totalement différentes, mais également pluridisciplinaires. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, il contribue à une réelle mobilisation sociale et dans le but de réussir à développer une compétence, comme Pascal le disait, mais une compétence dans le savoir s'orienter. Et en fait, le résultat de l'outil, une fois qu'il sera réellement mis en place, c'est la création d'un réel maillage territorial. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des résultats qui est très important dans ce projet. Et ce maillage territorial, en fait, il est possible parce que l'outil est vraiment vecteur de proximité entre ces différents acteurs-là. Et c'est justement une solution pour pallier aux distances que soulignait Pascal, des distances qui sont à différents niveaux. Et l'outil, il arrive pour rendre proche, finalement, les différents acteurs, que ce soit aussi bien les acteurs de la formation, pas l'emploi, les maisons de l'emploi. Donc c'est ce que va offrir cet outil-là. Et donc voilà, et on est face du coup à des proximités qui sont à la fois organisées, dans le sens où les gens vont se rapprocher parce qu'ils partagent des mêmes objectifs, des mêmes stratégies, des mêmes valeurs, mais aussi géographiques, dans le sens où on est sur un même territoire, soit national ou régional. Et donc ça va permettre à terme vraiment l'interaction à la fois des individus étudiants, demandeurs d'emploi, mais aussi entreprises ou encore des structures comme comme Pôle emploi. Donc c'est vraiment, l'outil CARN est vraiment une ressource qui est centrale dans cette interaction d'acteurs. Et du coup, c'est un outil, pour conclure, c'est un outil qui a été co-construit, mais qui aussi aide à construire finalement son orientation et au final à créer un réel écosystème qui est en lien direct avec le savoir s'orienter. Et à terme, c'est vrai que ça peut éventuellement offrir, dans une démarche de prospective, on parle beaucoup en ressources humaines de prospective métier, quels vont être les métiers de demain. Et à terme, ça va aussi éventuellement permettre de recenser des besoins et du coup d'aider dans toutes les gestions prévisionnelles des emplois et des compétences, éventuellement à l'échelle territoriale, et du coup mener des études prospectives sur quels sont, à partir des besoins recensés, quels vont être les besoins potentiels en formation au niveau des métiers, au niveau des emplois et aussi dans le développement des compétences de l'individu. Voilà. Merci.
Merci à vous.
Bonjour, je suis Pauline Thévenot, je suis conceptrice scientifique à l'Université de Lorraine et je fais partie aussi de l'IDP Rémis. Je me suis spécialisée dans la gamification, donc aujourd'hui je vous propose un retour sur l'apport du jeu dans CARN, parce que CARN a une spécificité, c'est que ses concepteurs se sont inspirés des jeux vidéo et notamment des MMORPG, des jeux en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft. Ils sont inspirés pour ça des arbres de compétences dans lesquels on fait des choix pour atteindre un profil ou pour lesquels le profil se révèle au fur et à mesure que l'utilisateur va choisir ses compétences. Et donc cette approche-là a permis d'approcher la notion de parcours non pas d'une manière linéaire comme ça se fait très souvent en informatique ou uniquement en arborescence comme on voit beaucoup dans les logiciels métiers, mais véritablement comme un monde ouvert, comme World of Warcraft, comme les Sims ou plus récemment comme Mario Odyssey. L'utilisateur va se balader dans son univers, dans le CARN, et il va faire ses propres choix. C'est un petit peu comme un bac à sable ou comme une maison de poupée, si vous voulez. Chacun vient avec ses propres objectifs. Je peux jouer avec mes poupées. Je peux décider que ce sera une cabane pour mon chat ou je peux simplement refaire la décoration de ma petite maison. Mais tout est juste et tout fonctionne. L'intérêt de cette vision sur carte à partir du jeu, c'est de lui permettre d'utiliser la dimension ludique. Par exemple, avec des quêtes, publier une photographie de son université, avec une exploration du territoire, avec des échanges via les forums, via des interviews, et par la possibilité de créer ses propres trajectoires. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis rendu compte dans les travaux qui existent sur le jeu vidéo, c'est que ces éléments correspondent aux quatre profils des joueurs de jeux vidéo actuels. Et ces éléments, on les retrouve dans le fonctionnement qui est à la base de CARN. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre pour la suite d'utiliser le jeu, de faire vivre une expérience à nos utilisateurs dans l'accompagnement à CARN. On sait que le jeu aujourd'hui augmente la motivation et surtout augmente une participation active de l'utilisateur. Mais on a trouvé encore plus, et c'est au cœur de nos échanges en ce moment, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a actuellement des jeux qui sont des escape games. Donc c'est une série d'énigmes à vivre en groupe qu'il faut résoudre pour sortir d'une pièce. C'est des énigmes non linéaires. On fouille l'un, fouille l'autre, trouve une énigme, on s'échange des informations, etc. Et donc on est en train de se rendre compte avec Pascal que les compétences qui sont à l'œuvre quand on réalise un escape game sont extrêmement proches des compétences qui vont être nécessaires pour s'orienter, comme recueillir, analyser, synthétiser, organiser des informations, ou comme se connaître soi-même pour prendre des bonnes décisions. Donc, en présentiel, l'une des possibilités, c'est de continuer dans cette direction en proposant, par exemple, un jeu d'enquête ou un jeu d'entreprise sur plusieurs semaines qui mêlerait à la fois la dimension jeu et la dimension sérieuse de l'orientation pour nos futurs utilisateurs.
Merci.
Du coup, je vais terminer la présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Aurore Dupont-Chauvet, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université d'Orléans. Et mon rôle au sein de l'équipe de bêta-testeuse, ça a été notamment de faire le lien avec les usages actuels des étudiants. Et j'ai beaucoup axé mon intervention par rapport aux réseaux sociaux professionnels, puisque en tant que service central d'orientation et d'insertion professionnelle au sein de l'université, on propose des ateliers sur l'orientation et l'insertion professionnelle, que ce soit que faire après une licence ou comment trouver un emploi ou un stage. Et on insiste vraiment sur la notion de réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn par exemple, parce que c'est un outil qui permet pas forcément de trouver un stage ou un emploi, voilà, mais de trouver beaucoup d'informations, que ce soit sur la formation qu'on vise pour retrouver des anciens et pouvoir les questionner en direct sur comment s'est passée la formation et ce qu'ils ont fait après cette formation, mais aussi sur la recherche d'emploi et de stage, avoir des informations pertinentes et actualisées sur une entreprise ou un secteur d'activité, et aussi évidemment de gagner en visibilité, ce qui est important lorsqu'on recherche un stage ou un emploi. Donc, vous l'avez vu, Cairn, c'est évidemment, il a un axe important sur la partie réseaux sociaux, voilà, et aussi... c'est un outil qui permet aux étudiants de construire donc, et développer leur réseau. Et donc, dans ce cadre-là, on s'inscrit en tant que service public à l'université, par exemple, dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, puisque il y a un certain nombre d'étudiants, quand on fait des ateliers sur des réseaux sociaux, qui se disent ben, « moi, en fait, j'ai pas de réseau, donc je vais partir de zéro ». Et puis voilà, et l'idée c'est de leur montrer que tout le monde a un réseau et que l'idée c'est d'apprendre à le construire et à le développer. Et on les aide là-dessus. Et Cairn, du coup, par son axe réseau social et par le fait que chacun peut donner, peut enrichir l'outil, il permet aussi de développer son propre réseau et de travailler sur son réseau. En termes d'usage que Cairn pourrait avoir dans une université comme celle d'Orléans, par exemple, je pense que ce qui va être important, c'est évidemment que, on l'a dit, l'étudiant soit accompagné dans son usage de Cairn. Et donc, il s'agira de former les étudiants et les relais internes, et notamment mes collègues psychologues de l'éducation nationale avec lesquels je travaille, qui ont été évidemment associés à ce travail sur Cairn, pour... pouvoir accompagner au mieux les étudiants qu'elles reçoivent en entretien individuel en faisant que Cairn soit un outil d'accompagnement dans la recherche, dans l'orientation. Et aussi, évidemment, il s'agira d'aider les étudiants à être acteurs dans leur orientation tout au long de leur vie, donc on l'a dit, à travers les réseaux, mais aussi à travers l'exploration des possibles, c'est-à-dire, et ce qu'on appelle par exemple la sérendipité, c'est-à-dire on rencontre quelqu'un pour lui poser des questions sur un entretien, sur un métier, pour faire un entretien métier, cette personne nous oriente vers une autre personne qui nous donne d'autres informations, et ça nous donne de nouvelles pistes en tant qu'étudiant pour une formation ou un emploi potentiel. Voilà.
Merci pour votre présentation globale du projet Cairn.
Je me permettrai juste, comme Aurore a parlé de sérendipité, et puis pour faire écho à la question qui a été posée à 12h25, la dernière diapositive qui rappelle l'aspect pédagogique, qui est le hasard davantage que les esprits préparés. Et donc, qui n'est pas de moi, de Louis Pasteur, et qui est rappelé par Francis Danvers. Mais je pense que ça positionne l'aspect pédagogique de l'outil. Voilà, merci.
D'accord. Merci à vous.
Est-ce que c'est payant ou pas ?
C'est un service public, non ?
D'accord, ok.
Je vous propose peut-être pour le bon fonctionnement de l'atelier, peut-être noter vos questions, les garder et les poser après la présentation donc, des trois projets, puisque du coup vos questions seront peut-être communes aux différents intervenants. Donc là, on voit déjà que c'est un projet qui est très collaboratif, avec une équipe très pluridisciplinaire, qui s'appuie vraiment sur le terrain. Et on voit vraiment que c'est un outil, l'impression première que j'en ai, qui sert finalement à rapprocher les gens, en fait. Hein. On voit, pour recréer du contact, et comme vous l'avez signalé à la fin, pour lutter aussi contre les inégalités sociales, pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau. Dernier point qui paraissait vraiment très important, et vous l'avez dit dès le départ, c'est pas un outil qui sert à s'orienter, mais vraiment à savoir s'orienter. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui va vous donner la formation idéale que vous pouvez faire, mais plutôt qui va vous aider à savoir décider pour vous-même ce qui sera le mieux. Très bien. Michel, on enchaîne. Donc Michel Muller sur le projet Human Roads avec l'UNICEF. Je crois que c'est sur...
Au sein d'une machine.
Ouais.
Peu importe laquelle.
Je suis déjà
copié ça sur la chaîne, en tout cas, mais je peux le faire.
On va prendre celui-là.
Est-ce qu'on peut profiter pour ouvrir les fenêtres et la porte? Je pense que ça nous fera tous du bien.
Bien, donc Michel Muller, moi je suis délégué régional adjoint en Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'UNICEF. Ça existe encore jusqu'au très prochainement d'ailleurs. Si je présente ça, c'est parce qu'en fait le projet est évidemment un projet national, mais auquel contribue l'ensemble des branches de l'établissement et bien évidemment le réseau des délégations régionales. Alors peut-être pour commencer, quelque chose qui vous est à tous familier. Alors pourquoi est-ce que je vous représente ce schéma d'études supérieures? D'abord parce que c'est le cadre, c'est le contexte avec lequel il faut travailler quand on est lycéen et qu'on doit se projeter dans des études post-bac. Alors c'est un schéma qui est très largement partagé dans tous les lieux d'information, vous le connaissez de façon récurrente. Ceux qui ne l'ont pas nous le demandent de façon systématique, je le précise. Et ça met surtout en scène la complexité des études supérieures dans notre organisation des formations. Alors, bien évidemment, pour ceux qui découvrent ça, les lycéens qui s'inscrivent dans un processus d'orientation, ça peut spontanément avoir quelque chose ou d'étrange ou de complètement anxiogène en se disant « Mais comment est-ce que moi, avec les idées d'orientation, avec les projets qui sont en train de me trotter dans la tête, je vais pouvoir trouver à mon tour mon propre chemin et créer un parcours dans cette organisation ?» Alors, c'est évidemment une préoccupation dont s'est saisie à l'UNICEF depuis toujours, c'est-à-dire comment essayer de rendre le complexe non pas simple, mais dans tous les cas accessible à l'ensemble des populations auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire bien évidemment autant les élèves devenus étudiants par la suite, mais aussi l'ensemble des personnes qui les entourent, d'une part les parents bien évidemment, qui sont sans doute encore plus anxieux que leurs enfants très souvent, et puis aussi tous les médiateurs, c'est-à-dire tous ceux qui vont les accompagner. Bien entendu, tous ceux d'entre vous qui assument ces fonctions dans notre groupe ici aujourd'hui. Alors, à partir de là, c'est vrai que je vais peut-être aussi repositionner les missions de l'Office, hein, globalement, en les catégorisant de la façon suivante. La première, c'est effectivement travailler sur cette question de l'information. Comment essayer de la rendre de façon exhaustive, claire, limpide, adaptée, enrichie, et puis à peu près systématique, et surtout le plus actualisé possible. La deuxième, c'est le travail de guidance. Alors, ce n'est pas qu'on ne se méprenne pas. La fonction de l'UNICEF, ce n'est pas de guider. Ça, c'est les professionnels qui l'assurent. Mais en revanche, on a clairement une mission qui est celle d'aider dans le travail d'aide à la clarification de ce que sont aujourd'hui les environnements professionnels et les parcours de formation qui y conduisent, des parcours, mettre en évidence comment concrètement des personnes s'orientent dans cet environnement. Et le troisième point, c'est la question du travail auprès des médiateurs. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que, bien évidemment, pour tous ceux qui sont les plus en face de l'actualité, vous voyez qu'il y a un vrai transfert de charges en ce moment, depuis l'année dernière, avec Parcoursup, les enseignants, et précisément les professeurs principaux, nomination d'un deuxième professeur principal en classe de terminale, et puis renforcement, en fait, de cette donne, aujourd'hui, dès la classe de seconde, peut-être potentiellement en classe de première, c'est en discussion, mais on assiste vraiment à un transfert de charges sur les enseignants, comme il n'a jamais lieu jusqu'à présent. C'était potentiellement quelque chose qui était porté par les politiques publiques depuis une trentaine d'années, mais là on bascule objectivement dans autre chose, et ce basculement se fait dans le même temps que est créé un corps spécifique de conseillers d'orientation devenant des psychologues de l'éducation nationale, avec des missions qui bougent aussi par rapport à ce qu'elles ont pu être jusque-là. Et va se poser bien évidemment, parce que je crois qu'on est en chemin sur cette question comme sur tant d'autres en ce moment, celle de l'articulation des généralistes, des médiateurs que sont les enseignants, qui sont directement en face à face avec les élèves, avec une nouvelle charge en fait, hein, très clairement, et puis les spécialistes que sont les psychologues de l'éducation nationale. Donc une articulation qui reste à construire objectivement, mais dans tous les cas à laquelle nous contribuons très concrètement. Et puis le dernier point, c'est la question du soutien aux politiques ministérielles. Alors ça, c'est évidemment une question extrêmement importante parce que je rappelle que l'ONICEP est un établissement public sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale d'une part, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de l'autre, et qu'à ce titre, effectivement, nous sommes un opérateur de l'État au service de la politique publique. Et que nous sommes là, bien évidemment, pour travailler sur les questions d'appui aux jeunes porteurs de handicap, travailler sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, et bien évidemment les hommes et les femmes qui seront très prochainement dans le milieu, dans un environnement professionnel. La question aussi du décrochage et de la prise en compte de ce décrochage. Comment permettre de faire en sorte qu'on mette tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'à la fois on prévienne ce décrochage, et dès lors que le décrochage a été avéré, permettre de faire, d'autoriser un retour en formation. Et puis je conclue bien évidemment, et là je me tourne vers mes voisins de droite, sur les questions de mobilité des jeunes en Europe. On est dans une situation où, vous le savez mieux que moi, l'Europe est un peu malmenée en ce moment, alors que pourtant Erasmus est porteur toujours de grands espoirs. Vous nous avez offert un témoignage tout à l'heure, et je vous en remercie. Et globalement, toutes les enquêtes qui ont été publiées, et notamment dont vous, Euroguidance, avez été le porte-voix, mettent en évidence à quel point la question de la mobilité est quelque chose d'important et de favorisant dans un processus d'orientation. Et à ce titre, c'est vrai que le fait d'introduire un nouveau droit destiné aux lycéens de terminale, dorénavant, qui est cette possibilité de faire une année de césure immédiatement après le baccalauréat, je peux dire, je ne cours pas comme tous les autres, je vais faire autre chose et je vais travailler mon projet d'orientation autrement qu'en m'engageant immédiatement dans un projet d'études supérieures. Ça, c'est un nouveau droit et toute évidence. Les lycéens s'en sont emparés à la rentrée, on l'a vu très clairement, et ça met en plus en évidence quelque chose qui, pour nous, est extrêmement intéressant, c'est le fait qu'on est dans une situation où des jeunes ont eu une réponse plutôt à leur projet de formation sur Parcoursup tout au long de l'été, peut-être même jusqu'à la rentrée, et décident in extremis de, finalement, c'est pas ça que je vais faire, il faut du temps, et je vais pouvoir bénéficier de ce nouveau temps qui m'est offert. Donc voilà, globalement, pour d'où je parle. Et à partir de là, concrètement, les outils que nous mettons tous les jours à disposition de l'ensemble de nos usagers, c'est bien évidemment d'abord quelque chose qui est ce corpus de fiches métiers. Alors on est environ à 750 fiches métiers à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est comment est-ce que, profitant de ce qui se met en place aujourd'hui autour de la préparation aux études supérieures, on va pouvoir enrichir, améliorer, proposer une espèce de relecture de ces fiches métiers avec quelque chose qui est l'appui de l'intelligence artificielle. Et ça nous a amené, à partir de là, à se dire que cette plateforme qu'on a créée vraiment dans l'urgence l'année dernière, Parcoursup se mettant en place de façon un peu à la hâte, trouver des réponses. Alors ces réponses, ça a été cette plateforme que vous connaissez, Terminal 2017-2018, dont la nouvelle version va être publiée là tout prochainement, qui a eu un succès énorme, et globalement, qui a complètement dépassé à la fois l'attente et le projet que le ministère avait en nous commandant cette plateforme. Alors, comment est-ce que, s'adressant à des lycéens, devenant des étudiants, on peut essayer d'améliorer leur niveau d'information et la qualification des informations qu'on leur transmet, notamment à travers les fiches métiers? Dans la mesure où j'insiste, en fait, l'ONICEP, c'est un établissement public, un éditeur, donc nous continuons à publier énormément de publications imprimées qui vont dans les établissements scolaires, les services communs universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle et tous les lieux d'information, objectivement. Mais par ailleurs, nous sommes bien évidemment d'abord connus aujourd'hui à travers ce média qui est notre site web, qui rassemble, je parle sous contrôle de mes collègues qui sont dans la salle, environ 56 millions de visites par an. Donc on est vraiment sur un vecteur d'information qu'il est capital de pouvoir essayer de potentialiser. Alors cette fenêtre, en fait, qui est le site de la plateforme terminale, nous allons l'enrichir donc prochainement avec un partenariat qu'on a noué avec la start-up Human Roads, que Guy évoquait tout à l'heure, qui a travaillé sur le principe d'un GPS de l'orientation. Et leur idée, c'est tout simplement de travailler sur les parcours réels des étudiants et des anciens élèves. En fait, c'était vous également qui évoquiez la question des anciens élèves, ou c'est quelqu'un d'autre ce matin, je crois plutôt. Et dans tous les cas, cette dimension du parcours rétrospectif ou de la lecture rétrospective de son parcours et des conditions dans lesquelles les uns et les autres se sont insérés, c'est à partir de là qu'on va essayer de voir à travers cette masse de données qui s'affiche sur le web, notamment à travers les réseaux sociaux professionnels, comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur ces données-là pour pouvoir les réinjecter dans une dimension supplémentaire d'information à l'orientation. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ces fameux parcours réels. Quand nous décrivons des métiers, nous le faisons à partir de tout un processus d'enquête qui est extrêmement factuel, formel, et qui permet d'aboutir à une fiche métier qui se veut exhaustive, synthétique et complète, tout en mettant en évidence la complexité de ce que c'est que l'activité professionnelle aujourd'hui, ce qui n'est pas une mince affaire. Là, l'idée et la dimension d'enrichissement, c'est de donner à voir comment des personnes qui sont formées, qui sont diplômées, qui sont qualifiées, se sont insérées, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut réintrojecter ce niveau d'information. Et donc, précisément, ça va se concrétiser de la façon suivante, avec une carte. On reprend l'idée, évidemment, que vous évoquiez tout à l'heure, parce que cette notion, en fait, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'exclure la science ou les sciences géographiques de ce type de travail. Je crois qu'il y a un lien naturel qui est en train de s'opérer, parce que le donner à voir, en fait, il passe par une représentation dans l'espace. Et la manière dont les uns et les autres s'orientent et s'insèrent, c'est quelque chose qui se tisse aussi à travers tout un certain nombre de mouvements qu'on peut parfaitement observer d'un point de vue géographique. Et donc l'idée, c'est de mettre en évidence à la fois quels ont été les premiers emplois à partir de la formation, les emplois successifs que les personnes se sont appropriés à ce moment-là à travers les péripéties qui constituent en fait des débuts de carrière. Et donc concrètement, en fait, il faut retenir peut-être trois données principales. La première, c'est la question effectivement de la géolocalisation qui s'applique à la fois à la question des diplômes et de l'entreprise. On a insisté pour essayer d'obtenir ce critère entreprise, quels étaient les types d'entreprises dans lesquelles des diplômés d'un même type de formation en fait, s'inséraient pour mettre en évidence qu'il y a des écarts extrêmement importants. Et là, ça me permet de revenir sur ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ce schéma-là, qui est particulièrement tubulaire et donc potentiellement et à la fois vrai et faux, évidemment. L'idée, c'est de montrer potentiellement comment toute cette organisation qui est à plat, qui est figée, en fait, est contredite par la réalité des parcours des individus. Et dans la logique et dans le processus d'orientation, l'intérêt, c'est évidemment de démontrer que ce schéma-là, c'est évidemment la réalité, mais cette réalité est tout le temps mise à mal par ce qui se passe très concrètement dans des parcours d'êtres humains qui ont des émotions, qui sont des individus rationnels, certes, mais pas forcément, et qui procèdent à toutes sortes de choix qu'il est évidemment important d'accompagner et de mettre en évidence, notamment dans des résultats de ce type-là. Bon, bien évidemment, il y aura également le moteur de recherche qui renvoie systématiquement sur les fiches métiers, et puis aussi une dimension statistique pour mettre en évidence justement les fréquences auxquelles l'évolution professionnelle se construit, et puis comment les parcours professionnels évoluent avec des métiers successifs. Alors concrètement, ça veut dire la chose suivante. On part de la fiche métier telle qu'elle existe aujourd'hui dans l'ICEF.fr. Alors, on a une version dite courte qui est plutôt proposée à des collégiens, à des jeunes lycéens, qui se veut extrêmement synthétique, exhaustive, évidemment, à peu près systématiquement, à chaque fois que c'est possible, illustrée par une vidéo, parce que pour contrebalancer le poids du texte qu'on a essayé de limiter. Et puis la fiche qu'on peut développer, hein. Vous voyez tout en haut, le cartouche plus d'infos permet d'accéder à la fiche complète exhaustive avec l'ensemble des sous-catégories que vous voyez derrière moi qui permettent de définir les conditions d'accès au métier, d'évolution de la carrière, etc. etc. Donc on passe de ça à ça, qui est l'existant, à cette forme de complément et d'enrichissement qui permettra de mettre en évidence pour la plupart de nos fiches métiers les indicateurs que sont d'une part le dernier diplôme obtenu et puis par ailleurs la localisation géographique des premiers emplois. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la question des entreprises que j'évoquais tout à l'heure, pour mettre en évidence justement la nature des entreprises, mettre en évidence à quel point, ça aussi c'est extrêmement important pour des adolescents, que même si vous savez pour toutes les enquêtes qui mettent en évidence dans quel type d'entreprise je veux aller, il y a évidemment toujours un top 10 avec les super grandes entreprises qui sont dans le CAC 40. Et puis là, l'idée, c'est de mettre en évidence tout le tissu industriel, des ETI, des TPE, etc., qui sont en fait l'essentiel de l'emploi en France. Et donc de montrer que le parcours et le lien entre la formation initiale et l'insertion, c'est quelque chose qui se constitue dans une logique territoriale, pas forcément visible, pas forcément avec les paillettes qu'on peut en espérer, mais avec une réelle possibilité d'insertion et de concrétisation de son projet. Voilà peut-être ce que je pouvais dire très rapidement. Donc cette collaboration, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'être finalisé à l'heure actuelle et qui sera précisément mis à disposition sur le site Terminal 2018-2019, donc le nouveau site qui sera destiné aux élèves de première et terminale, d'ailleurs plus exclusivement de terminale à partir de la rentrée. L'idée, c'est de s'adresser au cycle globalement pour ouvrir les élèves justement sur des perspectives plus larges par rapport à ce qui les attend tout prochainement.
Donc là, il me semble qu'on était sur un outil un petit peu différent, hein, si je ne me trompe pas, Michel, qui sert plutôt à améliorer l'exploration que des jeunes peuvent faire des parcours à la fois professionnels et de formation, donc qui va servir un petit peu à enrichir en fait le contenu informatique qu'il peut y avoir sur vos sites internet. Hein.
Parfaitement.
Donc, on va passer maintenant à Monsieur Balourdet. Alors, oui.
Je vais le mettre ici. Ça ne veut pas, je vais me lever un peu, sans les avantages de pitcher parfois, c'est qu'on peut se dégourdir un peu les jambes.
Je vais me mettre ici. Et je me suis embrouillé par une bouteille d'eau.
Ça va? Après une heure, c'est toujours difficile. Hein. Alors, imaginez un peu les étudiants, c'est leur standard. Donc, et c'est un peu la différence d'ailleurs, ouais, c'est ça, merci. C'est un peu la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est que l'artificielle peut être constamment interrompu et également au top. Je ne vais pas trop vous parler de ce qu'on fait parce que déjà, j'ai pas beaucoup pitché sur la boîte. Parce que pour moi, quand j'interviens dans une table ronde, c'est plutôt pour essayer d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, en tout cas notre vision. Il faut savoir aujourd'hui qui pense savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Levez la main. Une personne, deux personnes, d'accord. Bon, bah alors, mon objectif, c'est à la fin, vous me direz, bon, est-ce qu'on a un peu mieux compris ou pas. Donc, du coup, je ne pose pas la question qui croit comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre, donc je vais essayer de l'expliquer à ce niveau-là. Je vais rapidement quand même vous expliquer mon parcours. En fait, ce que Studis, c'est une start-up que j'ai fondée à la sortie de mes études. Donc aujourd'hui, on va avoir bientôt 6 ans. Et en gros, j'ai été passé par 5 établissements en 5 ans, sans me faire virer. Je tiens à le préciser parce que souvent, on se dit, mais comment il a fait? Donc j'ai fait une prépa, je suis rentré dans une première école d'ingénieurs qui s'appelle l'école des mines d'Alès, hein, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu, voilà. Je suis parti étudier le nucléaire à Montréal. Alors déjà, c'était pas Erasmus, c'était Crépuc à l'époque, les accords, je ne sais pas s'ils existent encore d'ailleurs.
Ça s'appelle VIC.
Ah d'accord, très bien. Et bien ça marche super.
Ça existe toujours.
Très belle expérience, et puis ensuite je suis rentré dans une autre école des mines qui s'appelle les mines de Saint-Étienne, donc pour faire de l'innovation. Et en parallèle, j'ai fait un master dans l'IO de Saint-Étienne, donc en parallèle des cours, pour réussir à faire tout ce qui était gestion d'innovation autour de la data science. Donc tout ça fait que, à chaque fois que vous posez une question sur l'orientation, bah, vous ne savez pas trop ce que ça vous permet de faire. Vous rentrez dans une école, dans une formation, c'est compliqué, vous ne voulez pas trop les déboucher, et puis en plus de ça, quand vous avez fait 5 étapes, à un moment vous avez des RH qui regardent votre CV et qui ne comprennent pas. Et c'est là-dessus, en fait, il y a un vrai sujet pour réussir à pouvoir comprendre intrinsèquement le potentiel d'une personne et pour pouvoir l'aider à se guider, à s'orienter. Donc tout d'abord, on va essayer de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai pris Wikipédia. Tant qu'à faire, autant être sur le truc un peu numérique à ce sujet. Et donc pour Wikipédia, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors là, c'est encore un peu vague. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent après. C'est l'IA recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Alors là, il y a une notion de complexité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez quelque chose, vous avez des choses qui sont de l'ordre de la statistique et des choses qui vont être de l'ordre de la compréhension et de la prise de décision. Donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Et on va jouer un petit jeu à un moment, ce sera de savoir pour vous si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Donc, j'espère que plus de monde, du coup, lèvera la main. On fera des petits sondages, comme ça, tout le long. Et donc, le fantasme de l'IA, c'est quoi? Bon, tout le monde soit un Terminator, Sarah Connor, il veut tuer tout le monde. Alors, il y a un point qui est intéressant, donc On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, en fait, l'intelligence qu'on dit forte, c'est celle qui comprend d'elle-même, qui a une sorte de conscience, qui sait quand elle est en danger ou pas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça. C'est plutôt des micro-tâches un peu quasi autistiques, très très bons sur des domaines sur lesquels on ne comprend pas forcément l'ensemble. Et donc le fantasme qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui comprend, qui va pouvoir interagir avec vous et qui va même pouvoir aller jusqu'à décider. Chose qui aujourd'hui est de l'ordre du complexe. On va continuer avec Schwarzenegger. Parce que on a, du coup, j'ai essayé de vous mettre en place un peu une méthodologie que j'ai moi-même pour trier rapidement si quelque chose est de l'ordre de l'intelligence artificielle ou pas. C'est si vous êtes ivre-mort dans un bar et vous arrivez à faire la tâche, c'est que c'est pas de l'intelligence artificielle. Et donc, deuxième information aussi, hein, vous voyez qu'on peut être millionnaire et être sur la paille, puisqu'on peut finir comme choisi. Donc, on va faire ce petit jeu-là. Et je vais vous présenter ça au travers des différentes solutions. Donc nous, on existe depuis 2012. Depuis 2012, chaque année, on doit avoir un peu plus d'un million de personnes qui utilisent nos solutions pour justement l'orientation. On travaille avec quelque chose comme 200 écoles et entreprises pour aider aussi bien à l'orientation et pour les collaborateurs. Donc on a un système qui s'appelle StudiesBot, qui est un système de chatbot en fait. Donc un chatbot, c'est quoi? C'est quelque chose qui va pouvoir discuter et vous donner des conseils. Studies Alumni, en fait, qu'on a créé en 2013 et qui va permettre d'analyser ce que font les diplômés sur des formations et sur des écoles pour, là aussi, c'est l'analyse de profils réels, un type réseau social professionnel. Aujourd'hui, on doit probablement avoir la plus grosse base puisqu'on est sur 100 millions d'étapes en fait, de parcours professionnel. Et donc, en fait, avec le même noyau que Studies Alumni, on a développé une partie pour les entreprises qui s'appelle Sherlock. Alors, pour la petite histoire, hein, Sherlock, pourquoi AIR? Parce qu'en anglais, le Airlock, c'est le SaaS. Et c'est justement un système qui est là pour aider à passer d'un métier à l'autre, alors que ça ne paraissait pas forcément probable. Pour la petite histoire, hein, je suis passé par beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs font tout le temps une enquête, soit au niveau de la commission des titres d'ingénieurs, soit au niveau de la conférence des grandes écoles. Et à chaque fois qu'elles restituent ces informations, donc il y a à peu près 100 ou 150 personnes qui vont pouvoir répondre, et elles vont faire ressortir 3-4 métiers. Parce que bon, faut essayer de faire une sorte de stade dessus, puis comme tout le monde a un peu mis des choses différentes. Donc finalement, on apprend à chaque fois qu'on peut être chef de projet, consultant, et parfois un autre métier dessus. Donc autant dire que des blockbusters. Donc, je vais vous parler un peu de StudiesBot parce qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit des gens, quelque chose qui parle et qui interagit avec vous, c'est ce qui se rapproche le plus de l'intelligence artificielle. Donc, StudiesBot, en fait, c'est ce qui va venir s'installer sur le site des établissements d'enseignement supérieur qui va pouvoir comprendre où en est la personne en termes d'études, qui va pouvoir lui conseiller des formations et qui va pouvoir également lui répondre à un certain nombre de questions. Et donc, on va commencer... tiens, il m'en manque une. C'est pas grave. Attendez, je vous donne deux petites secondes. Voilà. Hop, c'est pas grave. Donc, pour StudiesBot, le fait de pouvoir répondre à des questions, notamment, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est pas de l'IA? Qui pense que c'est de l'IA? Levez la main. Une personne. Ouais, qui donc? Du coup, les autres, qui pensent pas que c'est de l'IA? Okay. Oui, c'est vrai. Qui s'abstient? Alors maintenant, on va imaginer que vous êtes bourré et dans un bar et quelqu'un vous demande quels sont les tarifs de telle formation. Est-ce que c'est compliqué d'aller sur le site, de comprendre et de dire telle formation, c'est tel prix? C'est un peu ça. Alors oui, c'est de l'IA en fait, pour répondre. Pour une raison qui est très simple, c'est que comprendre l'intention réelle d'une phrase, c'est pas quelque chose qui peut être lié à ce qu'on appelle de la sémantique. Je vous donne un exemple très concret. On est d'accord qu'une minute, c'est du temps. Ou une heure, c'est du temps. Et bien, si jamais je vous pose la question « quelle heure est-il ?», là, vous allez me répondre qu'il est... 15h10. Par contre, si je vous dis quel temps fait-il, là en fait on a une notion qui est liée à la météo. Donc en fait c'est très très compliqué de dire l'heure c'est une notion de temps et d'avoir ces liens là. Donc en fait ce qui se passe c'est ce qu'on appelle du NLP, donc en anglais c'est Natural Language Processing, qui en fait est le traitement du langage naturel. On apprend, c'est un peu comme un enfant en fait, on apprend sur beaucoup de phrases différentes à quel concept c'est lié, et puis après on arrive à faire la différence que quand il y a faire et temps, c'est différent que quand il y a le verbe être et heure. Donc je vais vous présenter StudiesAlumni et Sherlock. Donc ça, Là, jusqu'à là, vous empruntez une IA qui était entre guillemets visible, c'est-à-dire qu'on interagit avec, on voit qu'il y a une réponse, on voit que c'est un peu complexe, etc. Mais il y a aussi une grosse partie des IA qui sont totalement invisibles. Donc c'est notamment tout ce qui est lié à un traitement de l'information qui ne serait pas sur des algorithmes classiques. Donc pour Studies Alumni, en fait, ce qui se passe, donc, comme je l'ai dit, ça analyse en fonction des formations et des écoles les parcours réels des diplômés. Bon, l'objectif, c'est de pouvoir donner accès à ces informations à ceux qui veulent rentrer dans ces formations, à ceux qui sont dans les formations et à ceux qui en sont sortis, et également aux professionnels de l'orientation, notamment dans ces différentes écoles. Et ça permet aussi de créer un lien, puisqu'on va pouvoir remontrer le réseau autour d'une école ou d'une formation ou de personnes qui ont fait les mêmes étapes. Quelqu'un qui est passé par un DUT, finalement, qu'est-ce qu'il a fait par la suite. Et donc, notamment, c'est un exemple hein, de ce qu'on a, parce qu'en fait, on a à peu près les mêmes technologies du coup dans Sherlock et dans Studies Alumni, donc je les ai un peu mixées. Là, en l'occurrence, ça permet de montrer, je vous l'ai dit, la CGE ou la CTI, en général, on va faire ressortir 3-4 métiers. Nous, par école, on en retrouve 200, parce qu'on arrive à analyser entre 3000 et 20 000 personnes selon la taille de l'établissement. Et on va pouvoir ensuite, grâce à ce moteur de recherche, pouvoir retrouver sur LinkedIn et Viadeo, notamment, qui a fait quoi pour qu'ils puissent se reconnecter ensemble. Ça, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est pas de l'IA pour vous? Qui pense que c'est de l'IA? Qui pense que c'en est pas? Il y en a beaucoup qui sont endormis là, hein. C'est participer un peu quand même. Et alors en fait, c'en est pas. C'en est pas parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle tout bonnement du big data. C'est-à-dire qu'on va analyser beaucoup d'informations, donc pour le cerveau humain c'est compliqué, mais si vous aviez un temps infini, bah là, je dirais que vous pourriez le faire, même bourré. Et vous allez pouvoir ensuite faire des statistiques en fait interactives et ensuite un moteur de recherche. Sherlock. Donc Sherlock, ça c'est la partie pour les entreprises, donc basée sur les mêmes technologies. Donc ça va permettre en fait aux RH de pouvoir accompagner leurs collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet de pouvoir changer de job avec, on espère, une fréquence qui va être un peu inférieure à 4 ans, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt ce qu'on observe notamment dans les grands groupes, et de pouvoir justement offrir des nouvelles perspectives, non pas en fonction de ce qu'on connaît du collaborateur, mais de l'ensemble de son historique. Donc l'ensemble de son CV, l'ensemble de ce qu'il a pu faire en études. Par exemple, je vous donne un exemple concret, un geek qui est pur et dur, qui est trésorier dans son association, dans sa chorale, il a acquis des compétences, qui ne sont pas aujourd'hui présentes dans l'entreprise et qui ne sont pas détectables. Et donc ça, c'est permis aussi de pérenniser l'emploi dans l'entreprise, et notamment de pouvoir avoir un accompagnement qui les rend aussi plus flexibles. Donc c'est aussi un gros enjeu de compétitivité. Et alors, du coup, il y a une première chose qu'on doit faire. Alors, comme je vous ai dit, ça aussi, c'est ce qu'on a dans Studies Alumni. Hein. On a analysé plus de 100 millions d'expériences professionnelles. Et là, on a réussi à les regrouper en 20 000 métiers. Donc, 20 000 métiers, là, du coup, IA ou pas IA? Qui pense que c'est de l'IA? Ok, qui pense que c'en est pas? C'est de l'IA. On aurait pu utiliser d'autres choses. Et là, en l'occurrence, c'est de l'IA parce que ça permet également de pouvoir avoir quelque chose qui se met constamment à jour avec le marché. Et pareil, 30 millions de compétences qu'on a pu résumer en 1800 compétences. En fait, ça.
En quoi le fait d'actualiser, c'est un argument pour dire que c'est de l'IA?
Non, c'est juste la différence qui fait que du coup, quand vous avez quelque chose qui tourne, ça va pouvoir évoluer dans le temps. Alors que si vous aviez des systèmes qui seraient un peu moins complexes dessus, qui permettraient pas d'auto-apprendre sur un certain nombre de choses, ça ferait qu'on aurait un modèle qui serait figé, puis de nouveaux métiers, ce qui sort, ça serait plus compliqué.
Puis il y a la sémantisation et l'indexation aussi.
Alors justement, on va en parler un petit peu de ça. Parce que, quelle est la différence entre justement la partie sémantique et peut-être la partie IA? On revient dans le bar, il y a quelqu'un qui vient vous parler de son métier, il vous dit « je suis architecte réseau ». Alors si vous n'êtes pas dans l'informatique, vous pensez qu'architecte réseau, c'est un architecte qui va dessiner les réseaux. Moi notamment, j'ai fait pas mal de BTP, ça a été mon premier réflexe. Et vous voyez, architecte réseau et architecte de réseau, quand on fait une analyse sémantique, on enlève ce qu'on appelle les mots neutres. En fait, les articles sur deux, donc architecte de réseau, on vire deux et ça fait architecte réseau. Donc l'analyse sémantique, ça fait que ça serait le même métier dessus. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Et ça, en fait, il faut réussir à le comprendre. Il faut aussi réussir à comprendre qu'un métier, ou par exemple qu'un métier de DRH, qu'un métier de comptable, c'est pas du tout la même chose en fonction de la taille de l'entreprise. Ça va faire appel aux mêmes compétences, etc., ou en fonction du secteur. Donc, je vous donne un peu un exemple, justement, là, on parlait des métiers UNICEF, et je vais aussi regarder Pôle emploi. Pour vous dire, nous, on n'a pas, du coup, choisi la version d'utiliser ces référentiels-là, parce que, par rapport à, du coup, la modélisation mathématique qu'on a fait, on se rendait compte que quelques centaines de métiers, c'était pas suffisant pour bien représenter, en fait, les variations qu'il y a dedans. Surtout quand vous devez accompagner quelqu'un sur un métier, souvent, c'est difficile de passer sur des métiers qui sont même, entre guillemets, proches, et qui pourtant, dans des référentiels, je dirais, un peu plus étoffés à la main, qui seraient en fait dans la même catégorie. Ça serait la même chose. Et donc, comme je l'ai dit, c'est bien. Et donc, on a également une cartographie des parcours professionnels. Donc là, je vous l'ai dit, grâce aux 100 millions de parcours analysés. Et du coup, ça va créer une cartographie interactive avec une facilité, en plus, de passer d'un métier à l'autre. Ça, est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA? Qui pense que c'est de l'IA? 4 personnes. Qui pense que c'en est pas? Ah, tu vois, l'égalité, c'est ouf. Hein, c'est génial, quoi. Eh bien, c'en est pas. C'en est pas, en fait. Imaginez, on vient dans le bar, vous analysez des CV, et puis vous regardez, tiens... Finalement, je sais que quand je suis en haut, bah, c'est le truc le plus fréquent. Et puis, bah, je fais des traits entre les métiers, même si je ne comprends pas ce qu'est un métier. Donc ça, c'est faisable. Et donc, du coup, là, ce n'est pas de l'IA, c'est vraiment ce qu'on appelle du big data et de la stat. C'est juste que c'est une représentation qui est différente que d'avoir des listes classiques. Après, on va passer donc côté collaborateur à la suggestion de carrière. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le collaborateur, on va pouvoir analyser ses étapes de parcours. On va pouvoir en déduire des compétences potentiel qu'il va pouvoir avoir, lui suggérer en fonction du contexte, de la taille d'entreprise, etc. Et on va pouvoir aussi lui suggérer des métiers qu'il peut faire par la suite. Ça, est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA? Qui pense que c'est de l'IA? Qui pense que c'en est pas? Alors là, c'est bon. Là, dans ce cas-là, c'est de l'IA. C'est de l'IA parce que justement, en fait, on pourrait faire de la prédiction différemment, c'est-à-dire que nous, on utilise de l'IA. C'est juste, là, je vous donne un exemple, on aurait pu faire ça d'une manière différente. C'est juste que dans les algos qu'on a utilisés, c'était ceux qui étaient les plus puissants. Et notamment, il y a quasiment une prise de décision, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre finalement la notion du métier, que c'est en tant qu'entreprise, donc ça va déduire un certain nombre de choses. Là, on l'a construit avec de l'IA. Donc, nous, ça fait 6 ans, effectivement, qu'on travaille sur des solutions intelligentes pour l'orientation donc scolaire et également professionnelle. On n'arrête pas d'innover, en fait, on sort à peu près un nouveau produit tous les ans qui permet, en fait, bah, d'accompagner tout au long pour nous de la vie cette notion, justement, c'est les personnes en fonction de leurs besoins. Je vais présenter une partie de l'équipe. Il y a aussi Xavier qui est au fond de la salle qui sera là, qui pourra répondre à un certain nombre de vos questions. On a pas mal de partenaires avec nous hein, qui nous suivent depuis le début parce qu'on est, comme on était pionniers au début, parler un peu Big Data, même en 2011-2012, c'était... qui n'est pas populaire et pas encore connu. L'IA, ça vient vraiment d'exploser depuis un an et demi, mais ça fait bien longtemps que c'est très dit qu'on commence à en faire. Et donc, on a été suivi par Réseau Entreprendre. Alors, l'Orange Fab, c'est un accélérateur de start-up qui est lié à Orange. Donc, c'est grâce à ça qu'on a fait notamment toute la partie pour les entreprises et qu'on a démarré à ça. C'est grâce à cet accompagnement. Il y a des pays France aussi qui nous aident. Et là, on vient de rentrer dans l'accélérateur de start-up de BMW. Je vous remercie, j'aurai plaisir à échanger avec vous par la suite, également si on n'a pas le temps de poser toutes les questions. Merci.
Merci Antoine pour cette présentation. Là du coup, l'intelligence artificielle plutôt au service en fait d'une plus grande exploration en fait du monde réel entre guillemets, qui permet de définir de façon un peu plus fine en fait les différents métiers, les différents parcours.
Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur pourquoi, en fait, l'intelligence artificielle, c'est avant tout quand nous-mêmes, on n'arrive plus à. Ça devient trop complexe de formaliser quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on ait un giga cerveau qui peut analyser énormément de données, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et en fait, dès lors que vous ne pouvez plus mettre en place un système d'analyse classique, où vous faites des algorithmes classiques, si A, alors B. Ben là, vous utilisez des choses, il y a différents, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a différents algos, d'ailleurs souvent une IA c'est plusieurs algos d'intelligence artificielle qui vont permettre à chaque fois de faire, comme je dis, des micro-tâches pour réussir à résoudre le problème final. C'est-à-dire que vraiment la vraie question, c'est quel problème que je veux résoudre, après vous voyez ce qu'il faut faire.
Très bien. Peut-être avant de passer aux questions, est-ce que l'un de vous trois a un complément sur faire sa présentation, on peut réagir sur... Michel, une question dans la salle, du coup, oui.
Bonjour. Je voudrais connaître les bases de données qu'il y a.
Sur quoi? Sur
tous les outils utilisés. Je n'ai pas compris sur le premier outil s'il y a déjà une base de données ou si la base de données va être créée avec l'instruction des étudiants ou pas, avec la logique qu'ils ont de se rester en connexion. Et derrière, aussi, la base de données, parce que je suis allée sur votre site.
Parce qu'en fait, on est sur une partie B2B pour notre part, principalement, même si on va voir si on en ouvre plus.
Il y a qui derrière, enfin, vous utilisez quoi? C'est des établissements qui nous ont donné leurs clients, en fait, et du coup, ils sont en relation entre eux.
Il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on fait avec les établissements, il y a aussi ce qu'on arrive à faire vers les moteurs de recherche, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va renvoyer vers ces réseaux sociaux professionnels. Il y a aussi tout ce qui peut être connex, comme des offres d'emploi, etc., qui nous permettent.
D'accord, donc vous allez aussi sur les données,
sur les données. Sur le moteur de recherche, qui va pouvoir appeler par la suite et envoyer vers ça. C'est comme Google là-dessus.
Pardon. Concernant le projet Kern, alors les bases de données sont les API, les données publiques de l'UNICEF, la documentation métier de l'UNICEF. Vous avez la documentation de Pôle emploi, en particulier les fiches ROM, les aires de mobilité. Et puis vous allez retrouver les bases formation, également en formation des universités. Là, l'expérimentation se fait sur 7 universités, donc l'ensemble des bases formation des universités, avec les services universitaires du CROUS, avec les services. Donc des données qui sont publiques au départ pour proposer un territoire avec des données qui sont identifiées par ces institutionnels. J'en oublie, hein, effectivement, tous les services publics en tout cas qui œuvrent en matière d'insertion et d'orientation, à partir desquels les utilisatrices et les utilisateurs vont pouvoir proposer d'autres éléments d'information en rapport avec leur activité, leur mobilisation réelle sur le territoire.
C'est les personnes qui vont se connecter à votre application aussi, qui vont déclarer leur parcours, et c'est via ça que vous allez mettre en relation les personnes.
Oui, ils vont déposer des Kern, tout simplement. Ouais. Voilà, il y a une association qui aide telle situation de handicap, une association musique. Parce que dans mon orientation, j'ai le choix entre 5 licences et puis je fais du violoncelle. Et c'est important pour moi qu'il y ait un conservatoire de bon niveau, par exemple. Ben, je ne le dis pas par hasard, parce que je l'ai déjà entendu. Hein. Ça fait partie des éléments, la culture, les arts, le spectacle. Ça fait partie des éléments d'orientation. Je pose un Kern qui est cette école de musique. Et puis on peut en discuter avec une personne qui également est intéressée. Voilà. Donc c'est du partage de données entre utilisatrices et utilisateurs.
Pour Antoine et donc sa partenaire, la question c'est la robustesse des données.
Oui.
C'est ça en fait. Comment vous la construisez, comment elle est construite la robustesse des données, puisque en fait tout ce que vous proposez c'est basé sur donc un grand nombre de données,
oui.
Mais qui n'ont pas, enfin, potentiellement, qui n'ont pas forcément la fiabilité de sources publiques, parce que c'est vous-même qui les construisez.
Ben pourquoi est-ce que sinon...
Je pose la question, pas de manière polémique, mais de manière, oui. Je veux dire, ben. Justement, comment construire une robustesse de données qui fasse que...
en fait, alors là c'est tout...
Les données, pour qu'elles soient fiables.
Mais en fait, alors, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous... quand vous commencez à faire de l'apprentissage, ça peut être de l'artificiel, ça peut être un peu de machine learning. Vous avez besoin d'apprendre sur des données et notamment de pouvoir savoir si la donnée est fiable ou pas. Ça, en fait, c'est des éléments statistiques. C'est-à-dire que vous êtes sur un fond de groupe, ça se passerait pour la même chose sur la partie médicale, puisqu'aujourd'hui, même quand c'est quelqu'un, entre guillemets, qui peut vérifier les données par une, vous ne savez pas si la donnée est totalement fiable ou s'il a passé la ligne, etc. Et donc là-dessus, en fait, c'est des tests en fait, mathématiques qui permettent de dire on pense que c'est fiable à tant de pourcents dans tel domaine. Un peu comme, je pense, ce qu'on voit d'ailleurs sur une voiture autonome. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on regarde à la fin, quand on partage un modèle et qu'on commence à apprendre, souvent on le partage en plusieurs parties, on apprend sur une partie du modèle, on teste pour savoir si par rapport à ceux qu'on a exclus du modèle, ça ne prédirait ou pas la même chose. Et là, après, il y a des itérations. Et vous savez si c'est fiable ou pas. C'est assez classique.
En termes de besoins, parce que d'analyse de marché, dans quelle mesure, enfin je pose la question à vous, en fait, ça s'adresse aux trois, dans quelle mesure avez-vous besoin d'avoir une connaissance précise de l'existant? Parce que sur les marchés de l'orientation et puis d'autres, on a toujours des nouveaux produits qui arrivent, qui emballent d'autres. Est-ce que c'est justifié ou pas? Quelle est la puissance? Enfin, il se trouve que les professionnels de l'orientation, de plus en plus souvent, après, ignorent les modèles théoriques qui sont là, là-dessous, c'est ce qui les amène parfois à des errements ou à des égarements par rapport à leur public, parce qu'en fait, il y a des gens qui signalent des choses comme des biais, alors qu'en fin de compte, ça relève de l'outil lui-même. Quelle connaissance avez-vous, ou quel besoin de connaissance avez-vous de l'existant? Parce que tout ça, en termes d'économie, quelque part, comme une start-up ou autre, je pense notamment à la problématique régionale, parce que je veux dire, les régions sont de plus en plus à même, effectivement, de construire eux-mêmes leurs propres outils, indépendamment parfois, même s'il y a une association des régions de France, notamment présidée par le président Bonneau, que vous connaissez bien, effectivement, il y a tout ça, en fin de compte, qui est fait avec des choses qui s'ignorent. Hein. Bon, parfois, il y a de la contribution, il y a de la co-construction, et que ce soit dans un objectif strictement commercial ou alors beaucoup plus sur un outil beaucoup plus ouvert, que faites-vous de l'existant? Est-ce que vous en faites une critique entre vous? Est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin? Parce que voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais par exemple pour le deuxième produit dont vous avez parlé, c'est l'évolution professionnelle. Bon, il y a un outil de la JAE qui s'appelle Transférence. Je suppose que vous le connaissez.
Non.
Non, vous ne voulez pas analyser
non,
avant.
Non, pour une raison qui est très simple. On se positionne vraiment en sachant quel problème qu'on veut résoudre. Il y a beaucoup de... C'est un vrai sujet, en fait. Hein. Par exemple, sur certains de nos outils, on co-innove sur certaines parties avec les écoles. Je pense qu'on est bon de comprendre aussi ce qu'elles font. Mais on est aussi très... On prend aussi beaucoup de distance. Parce que dès lors que vous... En fait, nous, les professionnels avec lesquels on travaille, il y a certains points sur lesquels ils sont pertinents et d'autres qui sont de l'ordre de la croyance. Je vous donne un exemple. Si jamais. Je ne sais pas s'il y a des gens ici de Pôle emploi, j'essaie de prendre cet exemple-là dessus, mais je ne sais pas si, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes un conseiller Pôle emploi, si vous ne voyez pas un certain type de population par rapport à l'ensemble qui ne serait peut-être pas venu ou qui se serait débrouillé un peu toute seule. Et donc là, ça pose une question qui est assez fondamentale. C'est est-ce que finalement l'apprentissage doit se faire avec les professionnels qui voient les personnes? Ou est-ce qu'il faut se dire, tiens, finalement, est-ce qu'il ne voit pas que la partie émergée de l'iceberg, et en réalité, la création de valeur, elle doit toucher tout le monde, et on ne peut pas faire un modèle qui est que sur ceux qui vont se déplacer quelque part. Ça, après, c'est du cas par cas. Il y a d'abord cette notion de bien définir la problématique, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense déjà que c'est comme ça, et puis après, il y a des tests. Donc, tout ce qu'on fait, c'est facile, il y a une innovation sur le but qu'on met là-dedans, qu'on retire. On se dit, tiens, ça va peut-être répondre à un problème. On se rend compte qu'en fait ça intéresse personne. Déjà ça, au-delà même de se dire est-ce qu'il ne le faut pas. Et en fait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est ça aussi, l'innovation. L'innovation, c'est essayer de se bourrer le moins possible, mais si vous ne vous plantez pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez bon. Mais souvent, ce n'est pas forcément un problème de fiabilité, c'est plutôt un problème de besoin. Il y a beaucoup d'idées qui me paraissent géniales et sur lesquelles on dit bah, finalement, quand on met les gens devant, bah, ils s'en moquent. Alors, c'est pas leur sujet.
Il n'y a pas de quoi glisser des principes écologiques dans tout ça. Dans la mesure où, effectivement.
C'est un sujet. Le problème, c'est est-ce que ça dépend ce que vous voulez résoudre. Là, vous mettez un biais qui peut être à l'écologie. Peut-être qu'il y aurait d'autres interprétations qui pourraient être intéressantes. Ça dépend des valeurs ou de ce que vous voulez mettre dedans. Par contre, si vous mettez ça, ça veut dire que si vous mettez une partie écologique et que c'est pas ce que vous mettez dedans, mais que c'est pas forcément pertinente. C'est-à-dire que du coup, vous mettez un biais, entre guillemets, vision écologique pour tous les autres, que ça concerne pas.
Là, c'est-à-dire, est-ce que ces modèles que vous créez sont des modèles idéologiques?
Alors c'est toujours compliqué de dire ça, il n'y en a pas, nous on estime qu'il n'y en a pas, après les personnes qui le font et qui l'analysent, il y a toujours quelque chose, au même titre que quand vous allez voir quelqu'un qui va vous conseiller un job, pour prendre l'exemple de Pôle emploi, il a son idéologie.
Dans ces modèles qui sont quand même des modèles d'appariement, peu importe après la complexité de l'appariement, c'est quand même des modèles d'appariement, futiles, territoriaux, locaux. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut penser dans ces modèles qui sont des modèles normatifs, de toute façon, puisque en fait l'outil informatique, par son mode de construction, est forcément normatif, comment introduire comment dire, une dimension qu'on pourrait dire, alors Michel dit écologique,
ouais.
Et avec quelle éthique, c'est-à-dire écologique, ouais. Pas seulement les petites fleurs et puis des, comment dire,
des coups globales,
de façon
plus comme vous imaginez ce matin, M. Simelli et M. Debouchel, derrière chaque algorithme, il y a des règles, voilà, derrière, voilà. Et derrière chaque intelligence artificielle, il y a une intention humaine. Ça rejoint ce que vous dites là.
Oui, mais on le réintroduit.
En fait, c'est vrai que vous êtes centralisé avec le dernier intervenant, mais c'est vraiment passé aux intervenants. La question est qu'est-ce qu'on fait de l'existant quand on est comme ça, sur le point de. Enfin, on va créer, modéliser autre chose. Comment le prendre, peut-être qu'il arrivera à le prendre en compte. J'ai vu Gabriel Tarr, donc ça se fait des sens, qui disait effectivement qu'on n'apprend jamais rien.
Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par saisir l'existant.
Mais de ce qui existe, par exemple, est-ce que au niveau régional, est-ce que vous savez, au moment où vous le faites, effectivement, il n'y a pas des personnes qui travaillent sur la même problématique avec une modulation semblable, puisque de toute façon, ce que vous faites, c'est une vocation nationale, même
internationale, mais justement, c'est leur proposer un espace, un environnement, une écologie. Au sein de laquelle ils peuvent s'exprimer, au sein de laquelle ils peuvent intégrer et participer à la co-conception. Donc l'intérêt pour moi il est dans la co-conception. Il a un intérêt profondément, et l'adjectif a été employé ce matin, anthropologique, c'est une question anthropologique. Donc, comment dissocier projet et sens ? Projet et sens n'existe que dans le lien social. Projet et sens n'existe que dans l'interaction. La possibilité de faire émerger l'existant, c'est la richesse, hein, du coup déployée, laquelle n'est pas effectivement forcément visible. C'est créer une écologie formatrice pour. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos, mais c'est une écologie formatrice. Ouais. Je pense que tous les professionnels de l'accompagnement sont parfois. Sont face à. Des incompétences à s'orienter. Hein, il y a des invariants, on les repère assez vite. Mais sont parfois, il y a des gisements de formation qui sont donnés par la personne que l'on accompagne, qui nous donnent des clés que l'on a cognitivement jamais auxquelles on n'a jamais pensé, et qui sont de l'ordre de l'impensable. Donc, à ce que ce soit partagé, à ce qu'on puisse le récolter, il y a une écologie formatrice.
Moi, j'ai une question. En fait, c'est une question pour Pauline Cadenot tout à l'heure. Parce que la présentation que vous avez faite de l'approche par le jeu, pour moi, je la considère comme extrêmement importante. C'est vrai qu'à l'UNICEF, en particulier, on s'intéresse à cette entrée depuis plusieurs années, en ayant du mal à la concrétiser. Et l'expérimentation que vous avez présentée là m'a vraiment beaucoup intéressé, tout simplement, parce qu'on sait, et vous l'avez dit, répété, appuyé avec. Plein d'exemples, à quel point le jeu, c'est une expérience formatrice par rapport à la question des apprentissages. Donc la question à partir de là, c'est comment est-ce que le jeu peut être effectivement un objet, une mise en condition par rapport au travail autour des questions d'orientation. C'est la première, et alors vous avez apporté un élément de réponse, mais ça serait intéressant qu'on y réfléchisse peut-être collectivement. Et la deuxième, c'est la question du genre avec le jeu. Pour moi, les filles ne jouent pas comme les garçons, et a fortiori sur des jeux de ce type-là, mais peut-être que vous allez nous dire le contraire. Et en tous les cas, à partir de là, comment est-ce qu'on peut effectivement travailler ces questions par rapport aux démarches d'orientation dans lesquelles, autour desquelles on essaie de réfléchir.
Alors en effet, les filles et les garçons ne jouent pas aux jeux vidéo de la même manière. Les jeunes et les moins jeunes ne jouent pas de la même manière. Bref, tout le monde a sa manière de jouer à soi. C'est pour ça qu'on utilise pas des catégories d'âge ou de sexe. On parle plutôt de profil de joueurs, sans dire quel joueur à 45 ans, etc. On a Richard Bartel a identifié 4 profils. On a des joueurs qu'ils appellent killer, qui lui a besoin de compétition et aime tout gagner et tout rappeler. Il y a le tireur qui a besoin de compléter, d'avoir tout exploré, de terminer les choses. Il y a le socializer qui lui aime discuter, aime créer. Et le dernier, c'est l'explorateur qui lui aime les zones d'ombre parce qu'il y a les découvrir petit à petit, se balader dans le jeu vidéo. Donc on utilise plutôt ce type de catégorie pour éviter justement les genres et nos autres catégories. Et pour la question de comment utiliser le jeu dans l'orientation, en venant ce matin, j'entendais parler d'expérience sur les campus avec l'apport des nouvelles technologies, des MOOC, etc. Quelque chose auquel je n'avais pas pensé, pourtant je suis dans le jeu et dans l'université tous les jours. Et je pense en effet aussi qu'il y a quelque chose à creuser. L'orientation, ce n'est pas ma discipline première. On travaille toujours en collaboration étroite avec Pascal, avec Juliette qui m'apporte les compétences. En fait, pour échanger sur ce sujet, j'ai besoin qu'on donne des informations sur l'orientation, sur ce qu'on veut en faire. Et moi, j'apporte la partie jeu avec la technique. Et je ne peux pas vous donner de réponse toute faite parce que je n'ai pas les compétences techniques sur l'orientation.
Merci pour cette réponse.
Mais si vous en avez, vous pouvez se téléphoner.
Nous allons malheureusement devoir clore cet atelier. Donc merci pour votre participation. Merci à Michel, Antoine et Pascal pour votre présentation.